100% sport. Plus de NFL. Plus de LCF.
Are you ready for some football?
Welcome to the NFL.
Le plus gros tailgate football est ici. Touchdown! Avec Nicolas Richard.
Ouais, non, pas le bon thème. On salue Nicolas Richard, mais c'est bien Patrick Friolet qui s'amène avec nous. Puis là, je sais qu'on est diffusé à Montréal au 91.9. Sur YouTube Live, partout sur la planète, avec notre application également. Quand je dis partout sur la planète, là, les nouveaux noms de villages, ben nouveaux, dans ma culture à moi et dans celle d'Oli, on nous écoute à Launay, en Abitibi, présentement. On nous écoute à Saint-Adalbert et aux Îles-de-la-Madeleine. Ça, je connaissais les Îles-de-la-Madeleine. Qui est d'ailleurs, tu sais, Nicolas Richard, lui, sa famille vient des Îles-de-la-Madeleine aussi. Tu veux, tout est dans tout. Mais on vous salue. Saint-Adalbert, je connais pas ça. Je connais pas ça pendant tout. Mais je sais que Launay, c'est en Abitibi. Ça, c'est loin de Montréal. On est heureux de vous avoir avec nous autres. Comment ça va, Pat Friolet?
Ça va très bien, Greg. Langto, comment ça va, toi?
Ça va bien, merci. Toi, tu viens pas d'un village lointain, hein? Non?
C'est drôle que tu me parles de ça parce que ma famille, moi, originalement, vient de Caraquet. Mon grand-père est originaire de Caraquet.
C'est vrai?
Les Friolets, il y en a beaucoup dans ce coin-là. Donc, le Nouveau-Brunswick, là, c'est l'origine des Friolets. Puis, par la suite, ben plusieurs qui habitaient au Nouveau-Brunswick et ma mère qui habite en Gaspésie à Percé. Donc, je la salue.
Ben, tu veux, il y a un numéro dont j'ai pas le nom, mais qui nous écoute de Miramichi au Nouveau-Brunswick. C'est-tu dans le même coin que Caraquet, ça?
Je pense que c'est pas loin. Je m'excuse pour les gens qui m'écoutent puis qui sont sûrement déçus, là. Peu flat foot ce matin, là, ben sur les talons. J'ai reçu une passe d'un patin, j'essaie de la mettre top net, donc...
<C'est>... Mets-toi pas toute cette pression-là, mon cher ami. Mais je savais pas que Caraquet, t'as pas l'accent pourtant, hein, nouveau.
Une heure et vingt d'écart entre Miramichi et Caraquet. Donc, on salue les gens de Miramichi.
Si vous voulez savoir à quel point Pat Friolet est bon en multitasking et a un focus sans bornes, pendant qu'il est en train de me parler, il fait la recherche pour trouver la distance entre Caraquet et Miramichi.
C'est fait.
Faut le faire pareil.
Désolé à tout le monde qui nous écoute et qui vont sûrement être déçus de dire « Voyons donc, Friolet, c'est pas ça que Miramichi, c'est pas loin de Caraquet. » Mais voilà, c'est fait. Là, je le sais. J'oublierai jamais.
Et tu veux, j'oublierai jamais. en fallait pas plus pour sortir la délégation de Caraquet au complet. Il y a un Lantaigne de Caraquet qui nous écoute. Donc, voilà. On vous salue toute la gang, mais là, ça va faire, on va parler d'hockey un peu. une belle victoire du Canadien, mais c'était pas parfait, là, comme dirait Gilbert Delorme, surtout pas en ce début de deuxième période. Mm-hmm. On a eu un passage à vide. Moi qui m'a inquiété là, pendant 9 minutes, je regardais le match, je me disais « Hey, yoyoyoyoy, que là ça pourrait commencer à ressembler à ce qu'on a vu, notamment un match qu'on était ensemble contre Seattle, où est-ce qu'on avait connu une très très bonne première période, un passage à vide en deuxième, on sait combien ça a fini. Une très très bonne première période, je veux dire, au niveau offensif des tirs au but, là, t'sais, on était présent au niveau des efforts parce qu'on sait que les buts contre, ça, on s'en était fait marquer, mais on avait disparu complètement par la suite et finalement, ça n'a pas été le cas. On a su se ressaisir.
Ça m'a aussi fait penser au match contre les Flames de Calgary il y a 2 semaines où on avait décoché 15 tirs au but en première période. Le Canadien, vraiment Dustin Wolf qui avait été brillant.
J'ai dit Seattle, excuse-moi, je parlais du match contre Calgary.
Ah bon, ok, bon ben parfait. On a les mêmes références dans ce cas-là. Puis à ce moment-là, c'est vraiment Dustin Wolf qui avait été la grande vedette de la première période. Puis il y avait eu une baisse de régime par la suite. On a vu un peu la même chose hier. C'est pas nécessairement le gardien qui a été incroyable autant que Dustin Wolf, mais très fort départ du Canadien, baisse de régime par la suite. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu un moment où ça aurait pu basculer parce que les Blue Jackets marquent. Et là, on sent que le Canadien ne joue pas comme il devrait jouer. Puis là, c'est là que Suzuki revient avec le deuxième but. Puis là, tout le monde a pu respirer. Ce moment-là, là, tu sais, quand on regarde le pointage global, on se dit, bon, le Canadien a gagné 5-1, ça a été un bon match hier. Mais tu sais, des moments comme ça, là, où c'est 1-0, 1-1, 2-1 dans un match, puis là, il y a un point de bascule, est-ce que là, ça s'en va vers 3-1 ou est-ce que ça va être 2-2? Puis là, tout à coup, le match prend une autre tournure. On a eu plusieurs moments cette année où c'était comme ça pour le Canadien, puis là, ça dérapait de l'autre bord. À Washington, on était dans le match jusqu'à temps que le point de bascule arrive. Donc là-dessus, je trouve que c'est encourageant de voir le Canadien bien répondre, sortir gagnant. En même temps, tu sais, c'était les Blue Jackets de Columbus qui venaient de jouer, qui jouaient un deuxième match en deux soirs. On pouvait pas vraiment se permettre d'échapper ça chez le Canadien, surtout en étant à domicile. Mais
non, c'est sûr.
Écoute, avec une équipe qui a une confiance fragile comme le Canadien, là, on va prendre ces points-là positifs puis bâtir là-dessus puis dire, hey, savez-vous quoi, on a été capable de le faire puis on va peut-être grandir là-dedans.
Oui, certainement. Et tu sais, on savait que l'adversaire était prenable. Ça, c'est sûr. Mais combien de fois on a eu des adversaires prenables depuis le début de la saison et on s'est effondré? Tu sais, je pense aux Kings de Los Angeles notamment, où est-ce qu'on se disait, hey, c'est un 2-2, ils ont des blessés, on est capable d'aller prendre ce match-là. On avait même qualifié ce match-là de must-win et finalement, ben, ça s'est pas passé de cette façon-là pantoute. Alors, écoute, il était sur un 2-2, mais on l'a fait hier et ça, ben, c'est le type de match qui peut raviver la confiance de plusieurs dans le vestiaire.
Ça, c'est sûr, parce que c'est une chose de dire les choses, d'avoir un bon discours, de dire qu'il faut bien se défendre, qu'il faut bien attaquer. Quand les choses se produisent pas sur la patinoire, ben là, à un moment donné, on n'a plus vraiment de matière. Là, on encourage les gars, mais ça se fait un peu dans le vide. On n'a pas de concret, on n'a pas ce qu'on appelle un blueprint. Donc, tu sais, un match référence. Un match référence où on dit, ça, là, c'est un match où ça a bien fonctionné, puis on prend ce match-là, puis on essaie de le reproduire. Mais il y a eu certains moments cette année où ça aurait pu fonctionner, mais là, vraiment, tout s'est bien imbriqué ensemble. C'est ce qu'on répète souvent. On essaie de réparer la défense, l'attaque fonctionne pas. On essaie de réparer l'attaque, on échappe les choses en défense. Là, on a finalement quelque chose qui a bien fonctionné, mais faut pas oublier que lundi, c'est quand même les Oilers d'Edmonton qui s'en viennent. Donc, il va falloir être sûr que les choses soient bien équilibrées autant que possible pour le Canadien si on veut sortir avec un résultat lundi.
Oui, certainement. Puis j'ai pu poser la question à Nick Suzuki hier dans le vestiaire suite à cette performance-là de l'équipe en lui disant justement ça. On a l'impression que tout a cliqué ce soir. Différents trios qui ont apporté de l'offensive. En offensive, on a bien joué. Défensive également. Ce que Martin Saint-Louis répète depuis quelques semaines là, en disant « Écoute, on va être dur à affronter » défensivement, mais offensivement également. D'ailleurs, on vous présentera quelques extraits de Martin Saint-Louis dans une dizaine de minutes. Manquez pas ça. Et de Mathieu Olivier aussi. Mais Nick Suzuki a été... la première chose qu'il a répondu, c'est ce fameux passage à vide là en deuxième période et de comment on a réussi à se relever de ce passage à vide là, ben notamment grâce à lui, mais comme jeu collectif que tout le monde a repris de la confiance. C'est arrivé d'un chiffre, d'une présence du quatrième trio qui a connu une bonne présence, puis le momentum est revenu vers l'équipe. Oui. Mais celui qui a connu une deuxième période difficile, c'est Juraj Slafkovský. Et Martin Saint-Louis, c'est pas gêné de lui donner une petite tape sur les doigts, je veux dire ça comme ça.
Oui, puis quand on regarde le fil des événements, on comprend que Slafkovský, tu sais, Martin a beaucoup dit on veut jouer un jeu mature. Puis, tu sais, quand il dit de jouer la game, ben c'est de prendre des bonnes décisions, puis de prendre la décision du jeu qui doit être fait dans cette situation-là. Slafkovský, pas longtemps avant de se retrouver sur le banc, a une occasion de sortir la rondelle du territoire défensif. Puis peut envoyer la rondelle tout simplement le long de la bande à Kirby Doc, mais décide de faire une passe à travers la glace à destination de Jake Evans. C'est intercepté, puis là, les Blue Jackets restent sur la glace. Puis Jake Evans essayait de sortir parce qu'il venait d'avoir un dégagement refusé. Evans est resté pris sur la glace à cause du dégagement, alors que ses alliés Caulfield et Newhook avaient réussi à sortir. Puis là, ben Slafkovský aurait pu jouer un jeu mature en sortant la rondelle du territoire, permettant à Evans de faire un changement. Ça, c'est une mauvaise lecture de la situation de Slafkovský. Puis c'est là où Martin, parce qu'après ça, Slafkovský a enchaîné avec d'autres revirements. Puis peut-être que Martin a voulu juste taper le clou pour dire, écoute, je te demande de jouer de façon mature, puis ça fonctionne pas. Puis ce genre de jeu-là, là, les gars le remarquent. Puis les gars le savent qu'ils viennent de faire une erreur. Puis les gars savent que Jake Evans voulait sortir. Donc, tu sais, c'est une situation où le coach doit intervenir pour montrer que, écoute, tout le monde est responsable de ses actions. Puis ouais. Slafkovský, à ce moment-là, prenait des mauvaises décisions sur la glace. T'sais, en même temps, il l'a pas laissé sur le banc pendant une période complète, comme on a déjà vu dans d'autres situations. C'était une tape sur les doigts. Il est revenu par la suite en troisième période avec son trio. Mais c'est sûr que pour Slafkovský, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette situation-là, Nick Suzuki est allé le voir à la fin de la période pendant que Slafkovský boudait un peu au banc, tardait à quitter vers le vestiaire. Ben, il a pas aimé la réaction de Slafkovský à ce moment-là, puis il lui a dit « j'ai besoin de toi en troisième période ». Ben, il est revenu, il a rebondi, il a fait le travail, puis c'est ça qu'on veut voir de Slafkovský. Puis là, l'important, ben, rendu là, c'est à lui de voir est-ce que je reçois le message positivement ou est-ce que je m'écrase, tu sais. Puis je pense pas que c'est son genre de s'écraser. Je connais Slafkovský, je sais que c'est un gars qui est fier.
Exact.
C'est ça qui est venu le piquer, tu sais, parce que c'est un gars fier, c'est un gars qui veut contribuer, qui prend les choses à cœur.
Mais t'as vu des leaders.
Qui est capable de faire la différence.
Exact.
Oui, vas-y.
Mais t'as vu des leaders comme, tu sais, le capitaine, aller lui parler à ce moment-là. Et Nick Suzuki en a parlé également dans les médias, là, à la suite du match. Et Cole Caulfield également qui lui a parlé, puis il a bien répondu. Mais moi, ma question, là, j'ai aucun problème que Martin Saint-Louis punisse Slafkovský de cette façon-là. Et je crois que ça fait partie du développement. On lui a posé la question après le match, d'ailleurs. Mais la question, là, est-ce que c'était en même temps un message à Kirby Doc? Parce que tu dis, cette présence-là en zone défensive, en première période, j'ai vu une présence, Kirby Doc, échapper deux joueurs qui ont mené directement à des chances de marquer aux Blue Jackets, qui ont été arrêtés par Samuel Montembeau, finalement. Si je suis Kirby Doc, peut-être que je réfléchis à la punition que Slafkovský a eue. Il dit, ouais, attends une minute, là, peut-être que je suis le prochain, là, je sais pas.
Ben, parce que ça, c'est une autre chose avec laquelle Martin va devoir jongler. C'est que là, si tu punis Slafkovský, là, tu viens d'ouvrir une porte. Donc là, les prochaines fois où il y a des situations du genre qui se passent, ben, il va devoir agir de façon conséquente. Parce que là, sinon, c'est là où tu peux échapper les choses. C'est là où les joueurs peuvent dire, ben voyons donc, pourquoi ça marche pour lui puis ça marchait pas pour lui. Puis tu sais, Slafkovský, là, rappelons-le, là, c'est quand même un gars qui a été pris premier au total. Oui, il a 20 ans. Oui, il est encore jeune, mais c'est un gars important pour le noyau de cette équipe-là. Et on veut pas l'échapper, on veut pas on veut pas briser un lien de confiance. Donc, si Slafkovský apprend de ça, puis rebondit, puis après ça voit d'autres situations se présenter où le joueur devrait être puni, ben là, il va falloir agir. Donc, c'est là où Kirby Doc, oui, je trouve ça intéressant comment tu l'amènes, parce que lui, peut-être que par la bande, doit comprendre le message aussi. Tu sais, on veut pas s'attaquer sans cesse à Kirby Doc. Sauf que, tu sais, on l'a déjà dit, il y a des éléments qui mentent pas. Moi, personnellement, je regarde les deux derniers matchs. J'ai le match du côté du Minnesota, ou même hier, il jongle avec la rondelle. Il se bat un peu avec la rondelle, il l'échappe. Rappelez-vous le but où Matheson marque en avantage numérique. Si vous regardez la séquence là sur le jeu, Doc est un peu chanceux parce qu'il échappe la rondelle, réussit à la dernière seconde à la donner à Matheson. Là, ça change de côté. Puis Doc, en voulant envoyer la rondelle au filet, ben c'est un peu un tir pour envoyer tout simplement le disque au but. Ben là, ça dévie puis ça se retrouve sur le bâton de Caulfield. Mais à la base, c'est pas une passe vers Caulfield, là. Donc, tu sais, je suis pas en train de m'attaquer sans cesse à Kirby Doc, mais il y a des éléments dans son jeu où on voudrait qu'il s'implique un peu plus, on voudrait qu'il soit plus présent sur la glace. Je trouve qu'il est beaucoup effacé à plusieurs moments. Sur la feuille de pointage, ça paraît plus ou moins, mais quand on prend le temps d'analyser ses présences, c'est un gars qui doit en prendre beaucoup plus au niveau de son implication, puis dans le fond du territoire, de donner des mises en échec, qu'on le remarque sur la glace. C'est ce que j'aimais de Kirby Doc, puis c'est ce que je trouve qu'on voit moins. Mais garde, il y a 18 matchs de jouer. Il va continuer de progresser, mais
ben,
il va falloir à un moment donné qu'il y a certains éléments qui se dessinent dans son jeu.
Continue de progresser, Pat. Il a joué 20 minutes hier. Là. Et
oui.
Ça, comme tu l'as dit, ça fait 18 matchs. Je pose la question candidement parce que je n'ai pas la réponse. C'est après combien de matchs qu'on commence à s'inquiéter pour vrai? T'sais, pour moi, de le voir sur la première vague d'avantages numériques, il y a un certain avantage numérique. Hier, ils ont passé 2 minutes à la glace. Là. Mm-hmm. Et il reçoit la rondelle, comme tu dis, il jongle avec la rondelle. Et là, il y a une occasion de tirer. Il essaie de chercher la passe. Il va passer avant de... Bon, ça, c'est correct, je vais lui pardonner ça. Ça, moi, ça fait partie, je classe ça dans la catégorie de... T'as été blessé longtemps, t'as besoin de ça pour revenir si on veut. Mais hier, je me suis efforcé de regarder ses présences sur la glace. J'ai pas vu d'effort. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi sur la messagerie texte, là. J'ai pas vu d'effort hier. Tant que ça. Je veux dire, je dis pas que c'est. Je vais utiliser une expression à Gilbert, là, c'est pogner le beigne pendant 20 minutes, mais à certains endroits, par exemple, en zone défensive, où on aurait peut-être aimer voir qu'il crée quelque chose, justement, j'ai pas vu ça.
En même temps, c'est tu sais, la vraie réponse, on le sait, là, c'est Martin Saint-Louis qui l'a entre les mains, puis c'est lui qui est capable de vraiment évaluer Kirby Dach. On ne sait pas exactement ce qui lui est demandé dans certaines situations. Puis quand on mesure l'effort, je dis que j'aimerais ça voir Kirby Dach s'impliquer plus physiquement, mais en même temps, on veut qu'il s'implique offensivement. Donc, s'il court à gauche, court à droite pour donner des mises en échec, ben ça veut dire que la rondelle n'est pas sur son bâton non plus. On veut. Tu sais, Martin Saint-Louis dit souvent, on veut des touches, on veut des bonnes touches. Ben là, en ce moment, je trouve pas que ses touches sont si bonnes que ça. Sauf que il y a des éléments dans son jeu qu'il doit apporter de façon plus constante. Mais à un moment donné, il y a une fenêtre où là, ça fait presque 20 matchs que la saison est commencée. Est-ce que là, la barre des 20 matchs va être franchie, puis on va dire, OK, là, ça serait le fun que Kirby commence à contribuer plus. Je sais pas comment Martin... comment il interprète un peu tout ça, mais à un moment donné, la question va devoir se poser pour voir est-ce qu'on est satisfait du début de saison de Kirby Dach dans les circonstances, puis à partir de quel moment on veut qu'il augmente son niveau de jeu pour que ça paraisse beaucoup plus quand on regarde le match que Kirby Dach est présent et est intense et contribue constamment à la feuille de pointage.
Exact. Rapidement, en une petite minute, mon Pat, t'as été impressionné, toi. T'as aimé ça, voir Lane Hudson et Mike Madison ensemble hier.
Moi, j'ai adoré ça. Les flashs qu'on a vus, je sais pas si c'est une expérience qu'on va répéter plusieurs fois, mais Madison et Hudson ensemble, je trouvais que, j'ai passé le commentaire pendant le match, je trouvais que ça ressemblait aux Harlem Globetrotters à certains moments. Deux gars très dynamiques offensivement. Quand ils sont en zone offensive, là, on voit les deux pas stressé d'être à la ligne bleue puis de créer des jeux. Je sais pas, tu sais, je trouve que aussi Lane Hudson, c'est un gars qu'on sous-estime énormément défensivement parce que il gagne des duels, son bâton est tellement efficace, il y a une présence lui dans le coin de la patinoire, a levé le bâton du joueur adverse facilement, a pris la rondelle. Tu sais, c'est des petits détails dans son jeu qu'on n'attendait pas autant de sa part puis qui est capable de bien faire. Son bâton est vraiment fort.
Il est tellement efficace que Sean Monahan est parti avec hier.
Ouais, c'est ça, il voulait un petit peu de magie de l'inotime dans ses mains, probablement, là. Il s'est dit, hey, je veux voir c'est quoi qu'il y a dans ce bâton-là. Mais non, mais c'est intéressant de voir Hudson progresser, puis de voir qu'il est jumelé à Matheson, qui est un défenseur, tu sais, qui a un petit peu plus de risque dans son jeu, on le sait, là. Il va beaucoup vers l'avant, mais tu sais, il est quand même capable d'être extrêmement fiable défensivement, le Mike. Mais de voir Lane Hudson jumelé à un joueur comme lui, ben, ça veut dire aussi qu'on fait confiance au jeu défensif de Lane Hudson. Moi, c'est ce que j'ai lu dans tout ça. Puis je trouve que Hudson, c'est vraiment beau de le voir aller. Puis avec Matheson, là, écoute, si jamais on parlait de Kirby Dach, là, si jamais Kirby Dach se trouve pas, puis il y a de la difficulté à produire constamment, ben, peut-être que de mettre les deux en avantage numérique, ça pourrait être une belle solution aussi.
Ça serait un excellent bon avantage numérique, ça, mon ami. J'ai déjà que ça va très bien depuis le début de la saison, là, tu sais, d'annoncer.
Oui, mais ils ont quand même marqué hier, là. Faut pas leur enlever, là, tu sais. Puis sur la feuille de pointage, Dach a quand même un point en avantage numérique, là. Donc, moi, j'aime beaucoup Kirby Dach, là. Je veux pas qu'on s'acharne sur lui.
Cette passe-là, par contre, c'était pas une passe décisive, loin de là, là.
Non, c'est ça. Puis c'est long. C'est long un an sans jouer au hockey. Il faut le rappeler, là. Je le sais qu'on est dur. Je le sais qu'on veut qu'ils réussissent. Mais c'est long, un an à l'écart du jeu. Donc, de gagner sa confiance, là, c'est important en début de saison. Mais là, à un moment donné, c'est juste qu'on aimerait que le scénario flippe de côté un peu puis qu'on le voit vraiment produire plus constamment.
Merci, mon Pat. Hey, quel plaisir de t'avoir les deux jours du week-end ensemble avec nous dans le tailgate. On reprend ça dès samedi prochain. Puis nous, ben, on manque pas de se voir cette semaine.
Sans faute, mon ami. Merci beaucoup. Puis écoute, là, j'en ai pris notre Caraquette Miramichi. J'oublierai pas ça.
Caraquette Miramichi. Écoute, ça nous texte de partout en ce moment. Là. Les gens nous écoutent d'un peu partout. Attends, mais là, c'est où, ça, l'autre village? Là? Upton.
Oui.
Ah, ça, Upton, c'est dans les cantons de l'Est, ça, là. Hein?
Exact. Vois-tu? Oui.
Il y en a de partout. C'est le fun. Écoute. Hey, merci, mon Pat.
Salut, mon Greg. Merci pour le voyage touristique. Ça,
merci. Merci à toi. Écoute, tu nous as fait voyager tout autant. Salut, mon cher.
Salut.
L'excellent Patrick Friolet de RDS. Au retour, dans deux minutes, on vous présente certains commentaires de Martin Saint-Louis, mais aussi, il y a Vincent Demuy, notre collègue, qui s'est entretenu avec Mathieu Olivier.